Donc je vous souhaite la bienvenue à notre fête. Et avant que nous entamions le repas, je souhaiterais vous dire quelques mots sur la situation politique. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que le remaniement ministériel d'il y a 15 jours n'a provoqué ni émoi, ni attente chez les travailleurs. Tout juste un étonnement de voir la capacité infinie qu'ont les dirigeants écologistes à abandonner leur idée et leur parti au premier appel à s'asseoir sur un strapontin ministériel. Et juste la surprise de voir qu'un héros est recyclable en toute occasion sans que l'on sache vraiment à quoi cela peut bien servir. Il n'en a pas été de même il y a une semaine quand la ministre du Travail, El Khomri, a dévoilé son projet de réforme du Code du Travail. Dans les usines, les ateliers, aux chantiers, ce projet est perçu par un grand nombre de travailleurs comme l'annonce d'une attaque sans précédent contre nos conditions d'existence. Et ça l'est. Ce projet de dynamitage du Code du Travail est une déclaration de guerre du gouvernement et du grand patronat contre la classe ouvrière. On a beaucoup discuté cette semaine au travail de ce projet de légaliser des journées de 12 heures, des semaines pouvant aller jusqu'à 60 heures, des heures supplémentaires obligatoires et moins payées, puisque le projet prévoit la possibilité de baisser les majorations de 25 à 10%. Les travailleurs mesurent ce que veut dire ce projet qui facilite les licenciements économiques, y compris dans des groupes qui continuent à faire des profits plantureux. Ce projet va même jusqu'à plafonner des indemnités obtenues au prud'homme pour licenciement abusif. Les patrons pourront donc licencier légalement plus facilement tout en bénéficiant d'une autorisation forfaitaire et bon marché pour licencier illégalement. Alors non, le prétexte de lutte contre le chômage mis en avant complaisamment par de nombreux journalistes pour vanter ce nouveau projet ne convainc vraiment personne. D'ailleurs, quand il s'agit de proposer des solutions pour réduire le déficit des caisses du chômage, toutes les options sont passées en revue. Mettre en place la dégressivité, ou diminuer la durée d'indemnisation, ou bien réduire le montant de l'indemnisation, ou bien un peu des trois. Mais personne n'a parlé de réduire le nombre de chômeurs, car dans la situation de crise quasi permanente que nous impose le capitalisme, tous ces gens savent que le chômage va continuer à croître. Ils font d'ailleurs tout ce qu'il faut pour cela, et de toute façon, se maintenir à un niveau élevé. Alors oui, accorder au patronat le droit d'augmenter le temps de travail, lui rendre plus facile les licenciements, tout en s'en prenant aux indemnités des chômeurs, sont des actes d'une guerre de classe. Et il faut espérer que ces mesures, qui ont mis en alerte bien des travailleurs, provoquent la seule réaction qu'elles méritent, à savoir une colère qui s'exprime de l'ensemble du monde du travail. Depuis des années, les attaques se succèdent contre nos conditions d'existence. Et les plus anciens des travailleurs peuvent mesurer l'ampleur des reculs que nous avons subis ces dernières années. La chute du pouvoir d'achat, les hausses considérables de charges de travail, le développement de la précarité, le recul de l'âge de la retraite, la hausse du temps de travail et surtout la hausse considérable du chômage. Tout cela a été justifié, expliqué. Il fallait que les entreprises soient concurrentielles, qu'elles fassent des bénéfices, que les services publics fassent des économies, et tout cela forcément pour le bien commun. Mais même avec des bénéfices, la société capitaliste ne va pas mieux. Les profits sont là, et à des niveaux records. PSA peut annoncer des bénéfices énormes après avoir supprimé des milliers d'emplois et fermé l'usine d'Aulnay. La Poste, que la Cour des comptes pointait du doigt il y a 15 jours pour ne pas supprimer assez vite des emplois, annonce fièrement cette semaine des bénéfices en hausse. Et l'on ne va pas citer toutes les entreprises qui font des bénéfices, car, rendues publiques ou pas, toutes les entreprises capitalistes qui fonctionnent sont des entreprises qui font des profits. Mais ces profits ne résolvent en rien la crise du système capitaliste. Investir dans la production, dans de nouvelles usines, n'est plus rentable depuis longtemps. Le capitalisme ne trouve plus son compte de profit que dans la spéculation, le rachat d'actions ou d'entreprises concurrentes. Et pour financer cette course au profit spéculatif, donc sans aucune création de richesse pour l'ensemble de la société, les capitalistes ont besoin de l'appui sans réserve des banques d'État. Ce sont elles qui prêtent sans intérêt aux banques l'argent qui inonde les bourses du monde entier et qui alimente des bulles spéculatives dont nombre d'économistes annoncent qu'elles seront la cause d'un krach plus violent encore que celui de 2008. Alors oui, vraiment, il est plus que temps que le monde du travail se fasse entendre avec son ombre et toute sa force pour ôter à la classe ultra-minoritaire des capitalistes l'immense pouvoir de nuisance qu'elle a accumulé par la violence et l'exploitation. Et nous sommes sûrs que tôt ou tard, cette colère se fera entendre avec les armes qui sont celles des travailleurs, les manifestations collectives et les grèves. Si le monde du travail est aujourd'hui désorienté, sans trouver les armes efficaces pour lutter contre ces attaques, il le doit à la défection des grands partis ouvriers qui l'ont représenté pendant des décennies. Aidé par le Parti communiste, cela fait longtemps que le Parti socialiste a accédé au pouvoir et à la direction de l'État. Et il n'a pas fallu longtemps, par contre, pour que les travailleurs ne puissent plus distinguer leur politique de celle des partis de droite, sauf pour ce que l'on appelle les problèmes sociétaux. Eh bien aujourd'hui, même cela c'est fini. Valls, Macron et Hollande sont en train d'enterrer le Parti socialiste et de couper les dernières attaches qui le reliaient au monde ouvrier. Les capitalistes ne sont plus décidés à faire la moindre concession aux travailleurs et les dirigeants du Parti socialiste qui s'en accommodent ont fait le deuil de l'électorat populaire qui continuait, malgré tout, par dégoût de la droite, à voter pour eux. N'ayant plus aucun gage, même minime, à donner aux travailleurs, les dirigeants du PS filent le train à toute allure à l'électorat. Élus avec une promesse de donner le droit de vote aux immigrés aux élections locales, Hollande sera celui qui aura mis en place le programme du Front National sur la déchéance de la nationalité. Avec l'état d'urgence, dont les dirigeants de l'État connaissent toute l'inefficacité pour lutter contre le terrorisme, le Parti socialiste donne des armes à la police et à l'appareil d'État pour surveiller, arrêter et enfermer des contestataires. Le Parti socialiste est en train de disparaître, mais les travailleurs n'ont pas à le regretter. Ils n'ont pas à se sentir liés à ce parti. La vraie question à se poser, c'est que construire sur les ruines de la gauche? Eh bien, certainement pas la même chose. Parce que pour faire la même chose, des prétendants, il y en a. C'est d'autant plus facile qu'il n'est vraiment pas compliqué de se faire passer pour plus à gauche que le gouvernement. Les Taubira, Montebourg, Hamon, ou cette semaine Aubry, les Mélenchon, tout cela aspire à prendre la place laissée vacante par le Parti socialiste. Mais sans que leur politique, et ils le savent, ne change quoi que ce soit à la situation des travailleurs, même s'ils brident leur suffrage. Il n'y a qu'à regarder ce qu'a fait Tsipras en Grèce pour comprendre de quoi il en retourne. La réalité du pouvoir est détenue par les capitalistes qui possèdent les banques et les grands groupes industriels et commerciaux. Aujourd'hui, pour continuer à engranger des profits, malgré le marasme généralisé, ces capitalistes ont des exigences et les politiciens qui les servent au gouvernement sont là pour les satisfaire. La casse des droits des travailleurs et la mise en coupe réglée des finances publiques au profit des comptes des entreprises privées par tous les canaux imaginables. Et les patrons additionnent sans relâche, baisse des impôts, subventions directes ou indirectes et rançonnage des activités de services publics comme la santé ou le transport par les groupes privés. Croire que les capitalistes peuvent consentir à céder sur leurs exigences et donc leurs profits simplement par des élections, c'est se préparer à renoncer. C'est ce qu'ont fait croire pendant des décennies le Parti communiste et le Parti socialiste. C'est ce qui nous a conduits dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Reconstruire cette gauche n'a pas d'autre intérêt que de semer de nouvelles illusions et nous n'y participerons d'aucune façon. D'ailleurs, pour les travailleurs, cette opposition droite-gauche ne rime à rien et ne mène nulle part. La seule opposition qu'il nous faut comprendre et sur laquelle nous devons agir, c'est l'opposition entre le grand patronat et les travailleurs. Les capitalistes ont pour eux le pouvoir énorme que leur confère leur richesse avec laquelle ils s'achètent le personnel politique et les grands médias qui défendent leurs intérêts. Mais les travailleurs ne sont pas désarmés face à cette puissance. Ils ont leur nombre et surtout le fait que ce sont eux qui font fonctionner toute la société. Quand ils sont en grève tous ensemble, plus rien ne fonctionne. Eh bien, c'est en utilisant leurs armes de classe que les travailleurs peuvent retourner le rapport de force et modifier favorablement leur situation matérielle, morale et politique face au patronat. Toute l'histoire du mouvement ouvrier et l'histoire de ses conquêtes nous le montrent. Tous les acquis importants l'ont été au travers des luttes et pas par des élections. C'est avec ces idées que le monde du travail doit renouer et le plus tôt sera le mieux. Le recul que nous vivons aujourd'hui est matériel, mais il est aussi politique et moral. À la montée des idées xénophobes et racistes répond le repli identitaire. Avec la concurrence poussée à outrance et contre laquelle presque plus aucune règle n'est appliquée dans le monde du travail, progresse l'individualisme. Mais tout cela s'explique par un long recul du mouvement ouvrier. Le FN se développe sur le décombre de la gauche. Dans les régions du Nord, où la gauche avait traditionnellement le plus d'électeurs, le Front National fait aujourd'hui de très gros scores. Non pas parce que ces nouveaux électeurs du FN soient tous devenus subitement racistes ou fascistes, mais c'est la façon dont une partie des classes populaires a exprimé sa colère contre la politique du PS, secondée par le Parti communiste. D'autres se sont réfugiés dans l'abstention, mais tous ont en commun de rejeter violemment ces politiciens de gauche qui ont mené pendant tant d'années des politiques abandonnant les travailleurs à l'appauvrissement et au chômage de masse. Et avant, ce sont les militants de ces partis, notamment ceux du Parti communiste, qui avaient conservé le plus de liens avec le monde ouvrier, qui ont été les premiers déboussolés, en particulier au début des années 80, quand il a fallu défendre la politique d'un gouvernement qui œuvrait contre les intérêts du monde du travail, en bloquant les salaires, en laissant licencier, puis en encensant l'économie de marché. Mais l'abandon des idées et des valeurs du mouvement ouvrier est encore plus ancien. Perverti par le stalinisme, puis associé périodiquement à la gestion d'un État au service des capitalistes, le Parti communiste a popularisé chez les travailleurs des idées qui n'étaient pas de leur camp. À l'internationalisme et au drapeau rouge, il a préféré le drapeau tricolore et la défense du protectionnisme censé protéger les travailleurs. Se détournant de la lutte des classes, il a affirmé que le changement passait d'abord par les élections. Tout cela pour finalement mettre tout son poids pour redonner périodiquement du crédit au Parti socialiste lorsqu'il était complètement déconsidéré auprès des travailleurs. Et ce nationalisme, cette défense des mesures protectionnistes, martelée dans la classe ouvrière des années durant, n'ont pas desservi Marine Le Pen quand elle a adopté un discours avec des arguments bien semblables à destination des classes populaires. Si je parle de tout cela, ce n'est pas pour ressasser le passé, mais c'est parce que nous devons chercher à comprendre comment nous, les travailleurs, nous pouvons collectivement nous retrouver en situation de faire de nouveau progresser la société. Nous le sommes déjà, car nous sommes nombreux, majoritaires, parce que nous sommes indispensables au fonctionnement de la société. Mais nous le serons plus encore avec les idées qui nous renforcent, comme cette idée que nous ne faisons, nous, les travailleurs, qu'une seule classe sociale, quel que soit notre métier, notre origine. Enfin, nous devons savoir que notre classe sociale, celle des travailleurs, est la seule à pouvoir sortir l'humanité de l'impasse faite de misère et de barbarie dans laquelle nous a conduit l'organisation capitaliste de la société. Parce que, contrairement à la classe capitaliste, les travailleurs n'ont pas d'intérêt distinct de ceux de la majorité de la population. En se libérant de l'exploitation capitaliste, ils libéreront toute la société. Parler de barbarie n'est pas trop fort pour évoquer les dégâts que cause la défense des intérêts des grandes puissances, dont la France, à travers le monde. Car la guerre en Syrie, en Irak, le chaos qui règne en Libye ne sont que les résultats des politiques que mènent les grandes puissances capitalistes dans ces régions pour y asseoir leur domination économique et y perpétuer le pillage des richesses. Les interventions militaires qui s'y succèdent sont dramatiques et sans issue pour les populations de ces régions. Le terrorisme est né de cette violence et de cette domination. Les interventions militaires des pays impérialistes ont toutes des prétextes humanitaires. En réalité, elles ne font qu'accroître la violence, les morts, la pauvreté, pour finir par asseoir une nouvelle dictature soutenue par les puissances impérialistes. Eh bien, les travailleurs ne doivent pas être solidaires de ces interventions vomies par les populations qui les subissent. C'est pourquoi nous disons à bas les interventions guerrières de l'armée française au Moyen-Orient et en Afrique. À cette barbarie des interventions s'ajoute la barbarie de l'État français vis-à-vis des migrants qui sont véritablement des survivants quand ils arrivent ici après avoir frôlé la mort sur un canot en Méditerranée ou dans la cargaison d'un camion. Ces migrants n'ont pas d'autre choix que de fuir la guerre, la misère, pour se sauver eux-mêmes et leurs familles. Il est criminel de dresser des obstacles de plus en plus difficiles à franchir autour et à l'intérieur de l'Europe. Un des seuls résultats de ces obstacles étant de faire prendre plus de risques aux migrants. Mais l'autre résultat attendu de ces barrières dressées et de ces frontières rétablies est celui de faire des gestes payants à destination de l'opinion la plus réactionnaire et la plus xénophobe. Et de ce point de vue, le gouvernement français est dans le peloton de tête. Ce que le gouvernement organise à Calais est écœurant. Il chasse des migrants sans leur laisser le moindre échappatoire, les condamnant à des conditions de vie inhumaines et des prises de risques maximum pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Eh bien nous revendiquons la liberté de circulation et d'installation pour tous. Avec cette liberté, il n'y aurait pas de Calais. Tous les migrants se répartiraient dans une Europe peuplée de 500 millions d'habitants qui peut, sans grande difficulté, accueillir cette population que rien n'arrêtera à chercher un refuge. Il devient chaque jour plus urgent de mettre un terme à la domination économique de cette petite couche sociale parasitaire, égoïste et totalement irresponsable vis-à-vis de l'humanité. Jamais le monde n'a détenu autant de richesses, autant de connaissances et de maîtrise technique. Et pourtant, ceux qui dirigent le monde veulent nous faire accepter de nouveaux sacrifices. Eh bien, il faut mettre fin à la propriété privée des moyens de production. Mettre en commun les connaissances et les moyens de produire. Organiser la production en fonction d'objectifs choisis collectivement. Mettre en commun la production pour qu'elle réponde aux besoins de chacun. C'est le communisme. C'est l'humanité qui reprend collectivement le contrôle de ce qui est produit et qui retrouve la maîtrise de sa vie, de son avenir, de ses ressources. Depuis longtemps, l'humanité a les moyens d'assurer une vie digne à chacun de ses membres. Seule l'organisation de cette société en classe sociale opposée, dirigée par une minorité de possédants, y fait obstacle. La classe ouvrière a conservé la force qui lui permettra de mettre un terme à cette domination. Il faut qu'elle reprenne confiance en cette force et que, surtout, elle renoue avec les valeurs du mouvement ouvrier, communiste, révolutionnaire. C'est la tâche de tous ceux qui ont conscience de cette nécessité vitale d'œuvrer à rendre vie à ces idées qui sont seules porteuses d'espoir pour l'avenir. Quelle que soit notre situation dans cette société, nous pouvons y travailler. Et c'est ainsi que pourront renaître dans ce pays, comme ailleurs, les partis communistes révolutionnaires dont l'absence se fait cruellement sentir aujourd'hui et qui seront vitaux dans l'avenir.